Aux Émirats arabes unis, la condamnation à mort de la jeune Sarah est transformée en coup de canne. Emprisonnée, bastonnée et expulsée. À l'issue d'une caricature de procès, la cour d'appel islamique d'Al Ain, dans l'État des Émirats arabes unis, a condamné à un an de prison qui s'ajoute aux 15 mois de détention préventive déjà accomplis, à 100 coups de canne et à l'expulsion, la jeune domestique philippine reconnue coupable du meurtre de son patron. Sarah Balabagan échappe cependant à la mort. Sous la pression des autorités et des mouvements internationaux, la famille de son employeur a renoncé à demander son exécution au profit de la DIA, c'est-à-dire le prix du sang. Sarah devra donc payer aussi une compensation de 150 000 dirhams aux ayants droit. Ça représente environ 200 000 francs français. Le verdict, qui ne reconnaît plus que la jeune fille a été violée, peut sembler totalement déséquilibré. En réalité, la Cour d'appel a pris en compte à la fois les pressions internationales et le ressentiment d'une population autochtone choquée par ce qu'elle considère comme une ingérence étrangère flagrante dans ses affaires. Fait significatif, la fustigation ne concerne en général pas les meurtres, mais est utilisée pour punir les relations sexuelles entre personnes non mariées, les viols, les vols et les consommateurs d'alcool ou de drogue. L'avocate Gisèle Halimi, membre du comité pour sauver Sarah, a déclaré qu'elle n'acceptait pas un jugement qui nous ramène vers le Moyen-Âge, dit-elle, et demande que les Émirats arabes unis soient expulsés des Nations unies. Plusieurs mouvements de solidarité continuent, entre autres le mouvement du 14 juin à Genève, qui continue sa récolte de signatures pour que Sarah soit totalement libérée. La justice européenne dénonce le sexisme et désavantage les femmes. La Cour de justice européenne de Luxembourg poursuit sa traque des discriminations sexuelles frappant les hommes. Après avoir jugé que les quotas de femmes étaient illégaux sur le marché du travail, la Cour récidive en décidant qu'un texte britannique accordant la gratuité des frais médicaux aux femmes à partir de 60 ans et aux hommes à partir de 65 ans était contraire au principe d'égalité entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Il semble donc que pour la Cour suprême de l'Union européenne, uniquement composée d'hommes, le principe d'égalité soit totalement incompatible avec ce qu'on appelle les discriminations positives en faveur des femmes. On doit ce nouvel arrêté à la colère d'un retraité britannique de 64 ans, furieux d'avoir été victime de son sexe, le pauvre. Pour la Cour de Luxembourg, comme je l'ai dit, uniquement composée d'hommes, le droit européen limite les discriminations entre hommes et femmes à l'âge de la retraite et aux prestations qui sont nécessairement et objectivement liées à cette différence. Ce qui n'est pas le cas de la gratuité des frais médicaux, mesure qui se justifie surtout par la diminution des revenus entraînée par l'arrêt d'une activité. Or, une femme peut parfaitement continuer à travailler au-delà de l'âge légal de la retraite et un homme peut s'arrêter avant 65 ans, disent les juges. Et une femme peut également complètement gagner autant qu'un homme, pourquoi pas. Cette jurisprudence européenne sonne donc le glas d'une politique jugée un peu trop volontariste par les juges européens. Le message a été entendu, par exemple, par le parti chrétien-démocrate allemand. On ne fait pas mystère à la chancellerie que la décision de la Cour de Luxembourg a fortement pesé dans le rejet par le Congrès démocrate-chrétien de Karlsruhe, qui s'est achevé la semaine dernière, d'une proposition d'Helmut Kohl prévoyant l'introduction d'un quota d'un tiers de femmes pour tous les postes et mandats du parti. Au Japon, l'ouverture du procès contre les violeurs américains d'une petite fille réveille les frustrations des habitants d'Okinawa. Okinawa, préfecture d'une cinquantaine d'îles perdues à 2000 km au sud de Tokyo, c'est à cet endroit que se joue actuellement le dernier acte de l'alliance nippo-américaine datant de la Seconde Guerre mondiale. Principaux accusés, les Américains, qui concentrent là leurs plus importants effectifs de soldats en Asie, puisque la base d'Okinawa regroupe 75% des forces américaines. Les habitants reprochent aux soldats d'avoir commis 22 meurtres, 110 viols, plus 4500 autres crimes et délits en près de 20 ans. Il y a 2 mois, un nouveau crime a fait déborder la coupe. Une écolière de 12 ans a été violée, battue, torturée sur une plage par 3 marines. Le procès s'est ouvert mardi. L'un des 3 soldats accusés a plaidé coupable. Les 2 autres ont nié être impliqués dans le viol. S'ils sont reconnus coupables de viol ayant entraîné des blessures, les 3 hommes risquent la prison à vie. Le procès devrait durer environ 2 mois. Ce viol a suscité un vaste mouvement de protestation contre la présence américaine dans l'île, qui a culminé avec une manifestation de plus de 85 000 personnes le 21 octobre dernier et a fait subitement monter la tension. En France, les concubins portent de leurs avantages fiscaux, mais gardent tous les inconvénients. Au nom de l'équité, de l'égalité, l'Assemblée a voté la semaine dernière, avec l'accord du gouvernement, la suppression de l'avantage fiscal dont bénéficiaient jusqu'à présent les concubins ayant un ou plusieurs enfants à charge. Désormais, si le Sénat suit, les personnes vivant en ménage avec des enfants seront soumises au même régime que les couples mariés. Les familles monoparentales ne sont pas concernées, mais il leur faudra maintenant justifier leur situation et peut-être également des enquêtes pour voir si elles sont véritablement seules. S'élevant contre le retour de l'ordre moral, le Parti socialiste a critiqué la mesure en soulignant que les concubins restaient défavorisés pour les droits de succession ou certaines prestations sociales. Voici quelques exemples. Pour le droit du bail, par exemple, contrairement aux époux, obligatoirement cotitulaires d'un bail, même signé par un seul d'entre eux, les concubins doivent, pour avoir les mêmes droits, signer le bail à 2. En cas de résiliation du bail, le concubin non titulaire doit partir en même temps que le signataire du bail. La loi aujourd'hui prévoit qu'en cas de séparation, on peut garder qu'une personne peut rester quand même dans les lieux. Mais ce droit n'existe pas pour les couples homosexuels. Et l'épidémie de sida a abondamment montré les drames qui éclatent au moment de la mort du titulaire du bail. Autre grande différence, c'est la pension de réversion, la pension de veuf ou de veuve qui n'est pas versée aux concubins survivants. Et puis, bien sûr, le droit des étrangers. L'époux étranger, lui, peut rester, tandis que le concubin non français ne bénéficie de rien du tout, même en cas d'enfant à naître ou de longue vie en commun. Taper sur les doigts des concubins, ça fait au moins plaisir à certains. Aux zélotes de l'idéologie maritale, dont quelques députés de bonne famille catholique se sont fait les héros, et de l'ex-ministre de la solidarité entre les générations, Colette Codacini. Il est évident qu'en toute justice, la mise au droit fiscal commun des concubins ne doit pas s'arrêter aux frontières du seul impôt sur le revenu. Les privilèges fiscaux consentis aux couples mariés dans le règlement des successions doivent à leur tour être abolis sous peine de contradiction grave. Sinon, l'amendement concubin ne serait que ce que beaucoup de ses partisans souhaitent hypocritement qu'il soit, un coup de brosse à reluire sur les godillots de la vieille France. Nomination d'une femme au poste de première ministre à Haïti. Il s'agit de Claudette Verlaigue qui vient d'être nommée. Parmi les priorités de son gouvernement que Mme Verlaigue vient de former, elle a cité l'organisation des élections présidentielles et le lancement d'une campagne d'alphabétisation. Elle s'est ensuite prononcée pour un grand débat national sur les réformes économiques, notamment les privatisations. Une chanteuse, Farah Juste, fait également son entrée au gouvernement où elle s'occupera des Haïtiens de la diaspora. En Colombie, une femme mère négocie avec la guérilla et les paramilitaires pour en finir avec les massacres dans sa région. Il s'agit de Gloria Isabel Cuartas, maire de la ville d'Apartado. Dans la région d'Urabá, qui est très sérieusement marquée par des massacres, soit de la guérilla, soit des paramilitaires. C'est pour cela qu'elle a décidé qu'il fallait absolument discuter avec ces groupes, s'entendre avec le diable, même s'il le faut, pour pour que la paix revienne dans sa région. Après avoir en premier temps rejeté sa proposition, le gouvernement d'Ernesto Samper a approuvé. Et finalement, les élus ont désormais les coups des franges pour prendre des contacts avec les guerrilleros et les groupes paramilitaires et tenter de faire appliquer les principes internationaux de respect des droits de l'homme, ce qui était précisément l'une des principales préoccupations du maire d'Apartado, Gloria Isabel Cuartas Montoya. Les règlements internationaux stipulent, entre autres, que la population civile étrangère au conflit ne doit pas devenir la cible de prédilection des acteurs des affrontements armés. À Paris, les manifestations anti-avortement sont désormais interdites. Le préfet de police vient de décider pour l'avenir l'interdiction pure et simple de toute manifestation anti-avortement à Paris. La déclaration préfectorale, suivie d'un arrêté sans ambigu, marque une première en France. Cette interdiction fait suite à plusieurs questions orales posées par des conseillers de Paris, écologistes, partis socialistes et communistes, à propos de l'autorisation accordée le 30 septembre à l'association anti-avortement SOS Tout Petit. Autorisation pour manifester devant une clinique du 13e arrondissement, ce qui constitue le 11e épisode de l'année des offensives contre des centres d'avortement parisiens, qui le plus souvent entraînent des affrontements avec des contre-manifestants issus notamment de la Coordination nationale des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception. Le préfet de police rappelle, je cite, que les manifestations organisées à proximité d'établissements obstétricaux ne doivent pas constituer une entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Interrogé par le journal Libération, le docteur Xavier Dor, président de SOS Tout Petit, se flatte d'avoir mené 101 opérations commando contre des centres avortement. Il déclare indigné. C'est d'une injustice totale. La loi est criminelle. Auparavant, les pouvoirs publics nous défendaient. Maintenant, le gouvernement laisse faire la rue. C'est-à-dire les contre-manifestants. SOS Tout Petit ne désarme pas et prévoit pour la fin de la semaine un rassemblement de prières puis une distribution de tracts dans un lieu qui sera tenu secret. En France, grève des hôtesses de l'air contre Air France. Les hôtesses de l'air et les stewards lancent un mouvement de grève pour jeudi. Ils s'élèvent contre un plan de départ volontaire proposé par Air France pour les hôtesses de l'air et les stewards. Ce plan de départ qui serait compensé par l'embauche de jeunes à des salaires nettement inférieurs. En gros, on jette les vieux, on prend des jeunes qu'on paye moins. Proposition catégoriquement refusée par les syndicats. En tout cas, le PDG de Air France, Christian Blanc, a menacé les personnels navigants commerciaux, les hôtesses de l'air et les stewards, d'une modification de leur contrat de travail en cas de succès de la grève. C'est ce qu'on appelle l'esprit de négociation. Toujours en France, des policiers condamnés pour viol. Un ancien membre du GIPN, groupe d'intervention de la police nationale, a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour avoir organisé avec deux autres collègues policiers le viol collectif de son ancienne maîtresse qu'il avait quittée. En confessant trop tardivement à l'audience avoir fait, je cite, la plus grosse connerie de sa vie, Raymond Alfonsi, 40 ans, n'a pas convaincu les juges. Ce n'est pas une connerie, ont-ils dit. Ni un dérapage, c'est un viol en réunion qui a déshonoré la profession de policier, a lancé l'avocat général. Le directeur de Tchernobyl a assuré que la centrale nucléaire fonctionnera encore pendant 15 ou 16 ans. Je cite, « On ne ferme pas une centrale qui rapporte 200 millions de dollars par an, fournit de l'électricité à des millions de gens et emploie 25 000 personnes. » Tchernobyl, continue-t-il de dire, est la centrale la meilleure et la plus sûre de l'URSS. Et ce n'est pas de sens de la fermer à cause de la catastrophe de 1986 qui ne peut pas se reproduire. On se rappelle qu'en 1986, Tchernobyl était déjà considéré comme la centrale la plus sûre de l'URSS de l'époque. Eh bien, ça nous promet des lendemains très joyeux. Et pour terminer, les vieillards indignes font des étincelles. Et oui, vraiment, il n'y a plus de vieux. Ils font que des bêtises. Comme ce monsieur, ce grec, né en 1930, qui a 87 ans. Elias Karaskordas a fumé sa première cigarette de haschich en 1931. Depuis, il a été condamné 75 fois. Toujours pour avoir fumé du haschich. Et lui qui ne rêve que de mourir tranquillement dans son village, eh bien non, c'est raté. À 87 ans, il va devoir retourner en prison. Le tribunal de Salonique va le renvoyer derrière les barreaux pour un nouveau bail de 7 ans et demi pour infraction à la loi sur les stupéfiants puisqu'on a trouvé 200 grammes de haschich chez lui. En plus, il doit payer une amende de 500 000 drachmes. J'ai fumé du haschich toute ma vie. Maintenant, je fume pour soigner mes vieilles douleurs, a-t-il déclaré au juge en sollicitant en vain leur indulgence. Pauvre petit. Et puis une autre vieille, un peu indigne, il s'agit d'Henriette Rez, qui est le cauchemar des hôteliers. Cette femme de 75 ans récidive depuis 1940 en faisant de la fraude dans les auberges. Elle a déjà été condamnée à 3 ans de prison pour avoir fréquenté les meilleurs hôtels, les restaurants les plus bons, en partant bien sûr sans payer l'addition ou en payant avec des chèques volés. Et cela pendant plus de 50 ans. Elle est connue de tous les tribunaux de France, a affirmé le procureur à propos de la prévenue dont la première condamnation remonte à 1946. Les magistrats ne semblaient pas convaincus de l'effet dissuasif de la peine de prison. Étant donné le nombre de filouteries qui figurent à son casier judiciaire et les quelques nuits qu'elle a passées en prison pour cette raison, ce n'est plus la peine de rêver. On ne peut plus rien espérer pour elle. Elle ne modifiera pas son mode de vie, a soupiré le procureur. On l'espère et on espère quelques bonnes années encore pour nos vieillards indignes. C'était les nouvelles sur la pleine lune, 93.8 MHz, dans quelques instants, quelques rendez-vous. Et puis Marjolaine vous prépare son cœur, qui a voir tous les papiers, est vraiment immense ce soir. Trala! Trala! Trala!
to a song. Monkey dancing on a string to the organ grand swing. A lot of thrills, leaning on our windowsill, listening to a catchy thing, like the organ grand swing. Tra-la, 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 tra-la. Soda's bar, my swing is soda's bar, you swing it so do I.
Vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Centre Femmes Radio Zone. Quelques rendez-vous à vous annoncer. Depuis le début de la semaine, a lieu une semaine pour l'Algérie. Ça a commencé lundi, ça se termine jusqu'à samedi 11 novembre. Une semaine donc qui est organisée par le comité de soutien à la démocratie et aux libertés en Algérie. C'est une semaine de films, d'expositions, de rencontres avec des gens qui viennent d'Algérie pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays, pour mieux comprendre aussi quel est le rôle que peuvent jouer des gens, des démocrates en Suisse. Voilà quelques éléments du programme. Ce soir, cinéma au Grütli, à la fonction cinéma, à la salle du Grütli, avec un film sur... qui s'intitule « Chronique algérienne » de Jean-Pierre Liédo, suivi de « Paroles d'exilés » d'Ali Akika. Un débat aura lieu en présence de Jean-Pierre Liédo. Autre jeudi 9 novembre à 19h, toujours au Grütli, à la salle de cinéma Fonction Cinéma, Soliloque 3, réalisé par Véronique Goël, et puis un grand débat suivra à l'université, salle 260 à l'Uni Dufour, c'est donc la Uni 2, un débat sur le thème « La Suisse face à la crise algérienne » avec des représentants des autorités cantonales et fédérales. Autre débat, celui-là le vendredi 10 novembre, toujours à l'Uni Dufour, mais à l'Auditoire Rouillé. Algérie vivante, démocratie au quotidien, avec des représentants des syndicats algériens, l'Union générale des travailleurs, des mouvements de jeunes, des représentants du RAJ, des mouvements de femmes pluriels et des journalistes qui parleront de la situation en Algérie, de la crise, mais aussi de l'espoir, de comment les gens organisés continuent à vivre et à lutter. Et puis samedi, eh bien, c'est un moment plus convivial avec un repas, un couscous, je vous le recommande. Il est fait par une cuisinière émérite, ils sont toujours excellents, et suivi d'un concert avec les Nomades, musique arabo-maghrébine. Ça se passe à la salle de paroisse de la Servette, 55 avenue 20. C'est à côté du poste de police, vous ne pouvez pas le manquer.
I don't go out walking.
Autre rencontre, le 9 novembre sera la journée antiraciste dans toute l'Europe et en Suisse, à Genève. Il sera en souvenir de la nuit de cristal. Une cérémonie aura lieu à 18h à la douane de Soral, où passaient clandestinement en Suisse des enfants juifs durant la dernière guerre. Différents témoignages sur ces passages seront là. Et puis, à 20h, cette manifestation antiraciste continue à la grande salle du Faubourg avec l'écrivain et homme de théâtre résistant Armand Gatti, l'acteur et chanteur Louis Arty. Les femmes en noir seront là pour montrer que malheureusement, il faut continuer au quotidien cette lutte antiraciste qui a encore toute sa signification aujourd'hui. Autre rendez-vous également le 9 novembre, c'est le centre Camarada, ancien centre Camille Martin, qui organise une mise en commun d'un réseau d'échange des savoirs interculturels pour les femmes. Le centre Camille Martin est un centre de rencontre pour les femmes émigrées, immigrées. Et à partir de 17h30, vous pourrez donc participer à cette mise en commun. Le groupe F Information organise, lui, le 9 novembre aussi, un groupe sur le thème « Quand la vie du couple devient difficile ». C'est animé par des psychologues. On aura aussi des informations juridiques. Cela se passe à F Information. C'est à la rue de la Servette. Et puis, le 15 novembre, j'aimerais vous rappeler qu'il y aura un débat sur le thème de l'interruption de grossesse. Quelle est la situation en Suisse et à Genève aujourd'hui, avec des psychologues et des conseillères conjugales du CIFERN, un débat avec le public. Ça a lieu également à F Information, donc à la Servette. C'est important de savoir un peu qu'est-ce qui va arriver, puisque vous savez que la situation va bientôt se transformer. Un projet de loi existe et à l'étude pour dépénaliser totalement l'avortement en Suisse, ou en tout cas pendant les premières semaines. À noter aussi un autre rendez-vous, c'est le 25 novembre, écrivez-le dans votre agenda. Eh bien, l'assurance maternité n'est toujours pas là. Alors, est-ce qu'il faut pleurer ou rire? Eh bien, en tout cas, le groupe pour une véritable assurance maternité a décidé de fêter ça et il vous invite à une soirée à l'Université ouvrière de Genève, aux Grottes. À 16h30, les petits pourront écouter des contes, à 19h du couscous, à 20h30 du théâtre avec des matchs d'improvisation et à 22h30, on dansera avec l'affaire Tournesol. Et j'aime, en parlant de danser, le Centre Femmes Nathalie Barnet vous invite également pour les bals qui ont lieu tous les vendredis. Alors, voilà, vous pouvez aller danser, par exemple, le 11 novembre sur la musique des années 50, 60 et 70. Waouh! Et puis, le 10 novembre, le Centre Femmes Nathalie Bernet à l'avenue Péchier vous propose une soirée sur le thème « Solidarité lesbienne dans le monde du travail. Aidez-nous dans la création d'un réseau de solidarité pour les lesbiennes chômeuses. Venez parler de vos expériences. Toute participation sera très appréciée, à quelque niveau qu'elle soit, idées, tuyaux, collaboration. Et pour vous toutes, voici un petit poème de l'écrivaine de service. Si votre prise de conscience est encore en l'air, faites-la descendre d'un coup solidaire pour les lesbiennes de cette terre. Et puis, pour terminer, vous annoncez que le numéro 2 du journal Calimat, le bulletin d'information des femmes du Maghreb et du Maghreb, j'y suis, vient de sortir. Vous pouvez l'obtenir en écrivant la case postale 19, 1213 Honnay, Genève. Et il nous parle entre autres de la réunion qui a eu lieu à Genève avec des femmes algériennes au mois de juin. Donc le Calimat numéro 2, automne 95, vient de sortir. Commandez-le, c'est un geste important. Et pour les femmes algériennes ici, les femmes du Maghreb et du Marrakech qui sont ici, c'est une manière aussi de rester informées sur ce qui se passe en Algérie. Voilà, mes nouvelles sont terminées. À tout de suite.